Allô tout le monde, merci d'être avec nous pour ce cinquième épisode. Avant de commencer, un petit rappel que vous pouvez aller nous suivre sur Instagram ou Histoire Sordide au pluriel, donc Histoire et Sordide avec un S, et que vous pouvez aller nous donner un beau 5 étoiles sur Apple Podcast. J'ai toujours la chance d'être accompagnée de mon ami Eric.
Bonjour tout le monde.
L'épisode d'aujourd'hui est en réalité la suite du précédent. Donc, si vous n'avez pas écouté le dernier, celui qui parle de Wilton Lubin et Sébastien Métivier, ce serait assez important que vous le fassiez avant d'écouter celui-ci. Ils vont ensemble et je vais souvent m'y référer. Finalement, dernière petite chose, je rappelle que ce sont des épisodes difficiles qui portent sur des enfants. Sans plus tarder, commençons. Aujourd'hui, on va parler du meurtre toujours non résolu de Maurice Vien. Pour résumer rapidement l'épisode précédent, juste pour qu'on se rappelle bien les faits qui vont être les plus importants pour le dossier d'aujourd'hui, voici. Sébastien Métivier, 8 ans, et Wilton Lubin, 12 ans, ont disparu le 1er novembre 1984. Un mois plus tard, on a découvert le corps de Wilton qui avait été poignardé, étranglé et dont on avait tranché la gorge. Ils étaient disparus ensemble du quartier Hochelaga-Maisonneuve et Wilton avait été retrouvé sur la rive sud proche de l'île Charon. Encore à ce jour, on n'a jamais trouvé aucune trace de Sébastien. Je vais conclure en mentionnant que le jour de leur disparition était également disparu le jeune Maurice Vien. J'en avais pas parlé en détail la semaine dernière, même si dans chaque article dans lequel on parle de Wilton et Sébastien, on parle aussi de Maurice, et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ce choix durant cet épisode. Mais pour le moment, voici son histoire. Maurice avait 4 ans. Le 1er novembre 1984, il jouait dehors proche de sa maison dans le quartier Centre-Sud à Montréal. Pour vous situer par rapport au quartier Hochelaga-Maisonneuve duquel sont disparus Wilton et Sébastien, eh bien ce sont deux quartiers voisins. Je voulais le préciser tout de suite. Maurice habitait avec sa maman Francine et son frère Alexandre. Ce jour-là, sans avertir sa mère, le garçon a décidé d'aller jouer au parc avec son ami Emmanuel Gagnon. En revenant du parc, ils se sont arrêtés dans la ruelle à côté de la maison pour jouer. C'est à ce moment que, selon plusieurs articles et reportages qui parlent de cet événement-là, un homme en voiture a approché les garçons. Il était environ 13h-13h15. Il semble que l'homme aurait dit aux deux garçons qu'il avait des bonbons plein la voiture. Maurice aurait approché la voiture, attiré par les bonbons, alors que son ami lui aurait été craintif de le faire. Lorsque Maurice se serait approché, l'homme l'aurait saisi et emmené dans sa voiture. Emmanuel serait alors allé en courant rejoindre la mère de Maurice pour l'avertir que son fils venait de partir avec un monsieur. Dès que la disparition est signalée à Francine, évidemment, c'est la panique. Elle appelle immédiatement les policiers qui, eux, mettent rapidement en branle une recherche immense dans le quartier. Dans un épisode de l'émission Homicide qui porte sur le petit Maurice, on explique que Jacques Duchesneau, qui est en charge de l'enquête, avait mis tous les policiers qu'il pouvait sur la recherche du garçon. Il commence localement, c'est-à-dire dans le quartier de Maurice, en parlant à tout le monde, fouillant toutes les cours des maisons, les ruelles, les dépotoirs. Il cherche partout. Malheureusement, en vain.
Mais si le petit Maurice a été enlevé en automobile, pourquoi est-ce que les policiers s'acharnaient dans le quartier même? Ils n'ont pas pensé à aller chercher plus loin?
Tu sais, je me suis dit la même chose en écoutant le documentaire. Mais ensuite, je me suis dit que c'est pas parce qu'ils le cherchent dans le quartier qu'ils ne le cherchent pas ailleurs, tu comprends?
Ouais.
Autre chose qui me fait croire qu'ils avaient quand même diffusé l'info à propos du fait que Maurice serait parti en voiture, c'est que dans le documentaire, on dit que les informations du public entraient sans dérouger au poste de police et que plein de citoyens parlaient de voitures louches ou d'endroits où ils pensaient avoir vu le garçon. Jacques Duchesneau explique dans l'épisode que toutes les informations sont traitées et éliminées les unes après les autres. Il dit également qu'il n'avait même pas d'ordinateur à ce moment-là, donc pour rassembler toutes les infos ou les mettre ensemble, il fallait travailler encore plus fort. Le 4 novembre, soit deux jours plus tard, alors que les recherches sont encore extrêmement actives partout dans la région de Montréal, c'est sur la rive sud de Montréal que les policiers sont appelés. Un citoyen a trouvé un petit blouson sur le bord du Richelieu, dans le secteur de Saint-Antoine-sur-Richelieu, et écrit à l'intérieur sur l'étiquette se trouve le nom de Maurice Vien. Quand j'ai appris ce détail, je sais pas pourquoi, mais ça m'a bouleversée. Tu sais, Eric, et vous le savez aussi pour ceux qui nous écoutent parce que j'en ai déjà parlé, j'ai des enfants. Et comme n'importe quel parent qui prend soin de son enfant, moi aussi j'écris leur nom sur leurs étiquettes, pour pas qu'ils perdent leurs choses à l'école. L'image du nom de Maurice sur son étiquette, trouvée dans des circonstances aussi tragiques, ça m'a bouleversée, parce que ça démontre que des gens l'aimaient, s'occupaient de lui au quotidien. Le nom sur l'étiquette, c'est un geste banal, mais C'est un geste d'affection, un geste d'amour. Et d'imaginer cette étiquette sur ce petit blouson trouvé dans un contexte aussi cauchemardesque, c'est juste horrifiant. Pour revenir aux recherches, évidemment, au moment de cette découverte, les fouilles sont déplacées dans ce coin-là, avec des centaines de policiers et des bénévoles qui ratissent tout le secteur. Saint-Antoine-de-Richelieu, c'est environ 60 km du quartier centre-sud de Montréal dans lequel vivait Maurice. Francine, la maman, a dit qu'à ce moment-là, elle savait que Maurice était mort. Même si elle espérait se tromper, elle le savait. Le 6 novembre, ce que tout le Québec redoutait arrive. On découvre le corps de Maurice, qui avait été sauvagement tué. C'est dans une cabane abandonnée, pas très loin de l'endroit où on a retrouvé son blouson, que les policiers font la macabre découverte. Je dois spécifier un détail. Il y a beaucoup de matériel disponible sur l'histoire de Maurice, mais dans la plupart des cas, la date où on a trouvé son corps varie. Je sais pas pourquoi, mais personne semble avoir la même information. Des fois, on parle du 5, des fois du 6, des fois du 7 novembre. Moi, j'utilise le 6 novembre, mais je suis pas certaine que cette chronologie soit parfaitement exacte. J'ai aussi lu et entendu d'autres choses intéressantes sur comment les policiers ont découvert cette cabane, et je voulais en parler rapidement. Dans quelques articles, on parle d'un monsieur X, un voyant, qui aurait aidé les policiers qui cherchaient à se diriger vers cette cabane pour trouver le garçon. Dans les articles que j'ai lus, j'ai jamais vraiment su si monsieur X aurait décrit cette cabane avant qu'on sache que le blouson de Maurice avait été retrouvé dans le coin ou après. Mais en gros, il semble qu'il aurait décrit les lieux de façon extrêmement précise. J'ai même écouté une entrevue exclusive réalisée avec ce monsieur X par le 98.5 FM en octobre 2017, et l'homme mentionne qu'il donnait tellement de détails précis qu'il a été questionné, interrogé et soupçonné de façon importante par les enquêteurs. Parce que ce qu'il savait, seul le tueur ou quelqu'un impliqué pouvait le savoir. Et en fait, je suis assez rassurée qu'il ait été interrogé de façon assidue, même si lui n'a pas apprécié. Si un citoyen connaît l'endroit où on va retrouver un petit garçon disparu avant les policiers, moi aussi je veux savoir comment il y a eu cette info. Mais il semble qu'il aurait été écarté définitivement. Et je dois ajouter que dans les documentaires dans lesquels on entend des enquêteurs qui étaient sur le cas de Maurice s'exprimer, jamais il ne mentionne de voyant. Dans son entrevue, M. X explique qu'il a coopéré à plusieurs reprises avec différents corps policiers, ici et en Ontario. Si c'est vrai, c'est tout simplement incroyable, et on aurait besoin de plus de M. X pour nous aider avec tous les dossiers non résolus. Mais bref, revenons à Maurice. Comme je l'ai mentionné au début de l'épisode précédent, je donne des détails un peu graphiques, et croyez-moi, je les donne pour une raison qui va devenir évidente vers la fin de cet épisode. Sinon, j'éviterai de vous fournir ces images mentales honnêtement, parce que c'est vraiment très atroce. Je préfère vous avertir. Maurice avait été sauvagement battu à coups de bâton, y compris au crâne. Ses pantalons avaient été descendus au niveau de ses chevilles, et sa chemise remontée au niveau de ses épaules, mais il n'avait pas été agressé sexuellement.
Mon Dieu, ce que tu décris, c'est épouvantable.
À qui le dis-tu? Écoute, j'ai vu des documentaires dans lesquels on interrogeait les policiers qui sont arrivés sur les lieux de la découverte, ceux qui ont cherché Maurice pendant tous ces jours en espérant le ramener à ses parents, et de les voir 25 ans plus tard, 30 ans plus tard, parler de l'enquête avec la même tristesse, le même découragement, la même déception, c'est troublant.
T'as tout à fait raison. Des crimes sordides comme celui-là, ça fait plus de victimes que ce qu'on pense. Pas juste les proches, mais aussi les intervenants, les premiers répondants, les enquêteurs, n'importe qui est lié, un tant soit peu de proche au cas, va être marqué à vie.
Tellement! D'ailleurs, dans un article du journal Le Nord, paru en 2019, on dresse un portrait de Jacques Duchesneau, l'homme qui était au centre de l'enquête sur Maurice en 1984, et quand la journaliste France Vier lui demande s'il y a des événements qui l'ont marqué, le premier dossier qu'il nomme, c'est celui de Maurice. Même 37 ans plus tard, et ce, après avoir fait partie de la police pendant plus de 30 ans.
Ça m'étonne pas. Là, il y a beaucoup trop d'informations dans ma tête, là. J'ai besoin de savoir. Est-ce que les cas de Sébastien, Wilton et Maurice ont été liés officiellement?
Bon, oui, parlons de tout ça mis ensemble. Évidemment, la police s'est bien sûr demandé si les disparitions des trois garçons étaient liées. Je veux dire, ils sont disparus tous les trois le même jour à quelques heures d'intervalle de deux quartiers voisins à Montréal. C'est quand même spécial. Mais la réalité, c'est que de ce que j'ai compris, les policiers n'ont pas relié les trois événements tout de suite. Et en rétrospective, je comprends pourquoi. D'abord, les enquêteurs qui ont été dépêchés dans les maisons de Wilton et Sébastien ont d'abord cru à une fugue, donc l'enquête a commencé vraiment différemment que celle pour Maurice qui, on le savait, était monté dans une voiture avec un inconnu. Ça a pris un mois avant qu'on retrouve Wilton et qu'on comprenne définitivement que quelque chose d'épouvantable s'était passé avec Sébastien et Wilton aussi. Mais d'un autre côté, les chances que deux événements comme ça arrivent le même jour et que ce soit une pure coïncidence sont pratiquement nulles. Mais la raison pour laquelle j'ai séparé les deux épisodes, c'est parce que moi, je crois pas qu'ils sont liés à proprement parler. Mais je crois pas que ce soit une coïncidence non plus. Moi, je pense que quand on regarde les détails des deux événements, on comprend que c'est pas la même personne qui a commis les deux crimes. Ce qui veut pas dire que les tueurs ne se sont pas consultés. Tu comprends?
Ok.
Reste avec moi. Le suspect le plus intéressant dans le cas de Maurice Vien, selon les enquêteurs, c'était un homme qui s'appelait Jean-Baptiste Duchesneau. Duchesneau, c'était un monstre. Il n'y a aucun autre mot pour le décrire. Qui avait une feuille de route longue comme mon bras de crimes plus dégueulasses les uns que les autres. Ah, et petite parenthèse, non. L'enquêteur dont on a parlé plus tôt, Jacques Duchesneau, n'a pas de lien avec Jean-Baptiste Duchesneau. Ils ont juste le même nom de famille. C'est en 1992 que Duchesneau est arrivé par l'entremise d'une information anonyme sur le radar de la police. Dans l'épisode de homicide dont j'ai parlé à quelques reprises, les enquêteurs ne le nomment pas, puisque je crois comprendre que son nom n'était pas sorti à ce moment-là. Mais depuis, il l'a été, alors on peut le dire. Dans l'épisode, ils l'appellent seulement le chauffeur de taxi, et ils expliquent qu'il agissait de façon extrêmement étrange. Du genre, écoute bien ça, Eric, dès que les policiers abordaient le sujet de Maurice, il commençait à s'agiter, à devenir très nerveux, et à s'adresser à une personne imaginaire. Il disait à la personne imaginaire « Ah, c'est ça que tu lui as fait au petit Vien? » Jacques Duchesneau, dans cette émission, dit aussi qu'il savait des choses que seul le tueur pouvait savoir. J'ai pas le temps de raconter tout ce que j'ai appris malheureusement, mais en gros, c'était vraiment un suspect parfait. Un enquêteur mentionne aussi avoir interrogé le propriétaire des taxis que Duchesneau louait, qui se rappelait de façon précise que Duchesneau avait rapporté son taxi tellement sale et boiteux qu'il lui aurait dit « Coudon, es-tu allé dans le bois? » Puis on se rappelle que le blouson de Maurice a été trouvé dans le bois et que la maison abandonnée était dans le bois en novembre alors que les terrains sont boiteux.
Là, avec tout ce que tu me dis, les preuves sont accablantes, là. Est-ce qu'il a été accusé?
Ah, tu vas pas aimer ce que je vais dire. Les policiers ont été obligés d'arrêter son interrogatoire en raison d'un ordre de la cour qui disait qu'il devait retourner en institut psychiatrique en vertu de la loi sur les malades mentaux.
Ah.
Je sais, c'est enrageant, est le mot?
Oui, c'est exactement ce que je me disais.
En fait, Duchesneau avait déjà été incarcéré en institut psychiatrique. Tu sais, quand je vous parlais de sa feuille de route? Eh bien, en 1973, il avait été interné à l'Institut Philippe Pinel, l'Institut national de psychiatrie légale, après avoir été accusé du meurtre de Sylvie Tanguay, une fillette de 6 ans qu'il avait assassinée à coups de marteau, ainsi que pour l'agression sexuelle d'une fillette du même âge. Là, tu vas me demander comment il a pu tuer Maurice s'il était incarcéré?
Ouais.
Eh bien, voici. Entre 1983 et 1985, donc en plein pendant les événements dont on parle, il était en libération conditionnelle.
Ah.
Duchesneau a aussi été suspecté dans l'affaire Denis Roux-Bergevin, dont l'affaire ressemble énormément à celle de Maurice. Denis avait 5 ans le 3 juin 1985, jour où il a disparu alors qu'il était devant sa maison dans le quartier Villemort à Montréal. Pour ceux qui se demandent, ce quartier est dans l'ouest de la ville, alors que les quartiers desquels sont disparus Sébastien, Wilton et Maurice sont dans l'est, mais moi je veux rappeler à tous ceux qui nous écoutent que Duchesneau, le suspect principal, était un chauffeur de taxi, donc très mobile, disons. Pour revenir à Denis, il avait été retrouvé 3 jours plus tard sur la rive sud, tout comme Maurice, mais cette fois dans le coin de Brossard, dans un boisé. Tout comme Maurice, il avait été sauvagement battu, dont au crâne, mais à la différence de Maurice, il avait en plus été agressé sexuellement. On s'entend pour moi, c'est clair que les dossiers de Maurice et Denis sont reliés. Ils sont trop semblables. Les deux ont été enlevés devant chez eux à Montréal en plein jour, battus à mort, abandonnés quelque part dans le bois sur la rive sud de Montréal. Pour revenir à Duchesneau, juste pour compléter un peu le portrait, là, il a été à nouveau accusé d'agression sur des jeunes enfants ainsi que d'inceste en 1987, crime pour lesquels il a été renvoyé en prison. En 1993, les policiers sont allés le voir en prison pour lui reparler des dossiers qu'ils avaient entre les mains. Dans Homicide, les policiers expliquent qu'il est devenu agité, extrêmement nerveux quand ils ont abordé ces sujets-là avec lui. Cependant, malgré tout, il a accepté de passer un test de polygraphe le lendemain. Évidemment, c'était une belle victoire pour les enquêteurs qui voyaient enfin la lumière au bout du tunnel, après toutes ces années à courir après un coupable. Mais leur joie a été de courte durée, parce que ce soir-là, Duchesneau s'est suicidé dans sa cellule en prison, emportant ses secrets avec lui.
De ce que tu nous as dit, les policiers suspectent Duchesneau dans le cas de Denis et de Maurice. Mais est-ce qu'ils l'ont suspecté aussi dans le cas de Sébastien et Wilton?
Excellente question. En fait, pas vraiment. Du moins, pas qu'on sache de façon claire et précise. Dans les articles qui ont été écrits sur ces dossiers au fil des ans, on le relie au meurtre de Denis et Maurice de façon assez officielle, mais pas vraiment à ceux de Sébastien et Wilton. Plusieurs personnes pensent, comme moi, qu'il y avait plus d'un tueur. Le 31 mai 2016, la presse a sorti un article dans lequel justement on identifie Duchesneau officiellement comme un suspect dans l'affaire Denis Roux-Bergevin. Il y a une citation qui dit, et je cite, « Une source a confié à la presse qu'un suspect qui s'est suicidé et un autre individu encore vivant pourrait avoir été impliqué dans une douzaine d'enlèvements et de meurtres d'enfants sur lesquels le SPVM, qui aurait même des preuves d'ADN, enquêterait toujours en collaboration avec la Sûreté du Québec. » Fin de la citation. Encore plus troublant, c'est l'article paru dans le Journal de Montréal le 2 juin 2016, donc 2 jours suivant l'article dans la presse, qui explique très clairement que le fils de Jean-Baptiste Duchesneau, Kevin Duchesneau, est persuadé que c'est son père qui est responsable du meurtre de Denis. En gros, dans cet article, il dit qu'il a fourni toutes ses informations à la police, bien sûr, mais qu'il sait que son père savait des choses que seules les personnes impliquées auraient pu connaître. Il dit que son père est un monstre et qu'il sait qu'il est responsable. Je peux pas m'empêcher de penser au fait qu'en 1987, Duchesneau avait aussi été accusé d'inceste. Alors j'ai bien peur que Kevin soit très bien, trop bien placé même, pour savoir exactement de quoi son père était capable. Je veux faire une parenthèse ici pour souligner son courage, de dénoncer son père, et par le fait même de devoir parler de choses qui doivent être très difficiles, c'est courageux. Il a décidé, lui, malgré tout ce qu'il avait pu vivre, de parler, d'aider à faire avancer des enquêtes. Je trouve ça incroyable. Pour terminer sur notre suspect, il faut savoir que Duchesneau habitait proche de Sébastien et Wilton au moment de leur disparition. J'ai lu à une place que Duchesneau aurait été le dernier à voir Sébastien et Wilton le soir de leur disparition. Par ailleurs, dans l'épisode de « Où es-tu? », la maman de Sébastien, Christiane, explique que Kevin Duchesneau lui aurait raconté qu'il avait vu les deux garçons à sa maison ce soir-là. Il semble qu'ils étaient paniqués parce qu'ils étaient poursuivis par un camion blanc. La mère de Sébastien explique à l'animatrice du documentaire qu'elle n'avait jamais compris ce qui aurait pu les amener là, étant donné qu'ils habitaient à 100 pieds de l'église, donc elle ne comprenait pas pourquoi ils auraient pu vouloir aller se réfugier chez Duchesneau, qui habitait à quelques coins de rue, alors qu'ils auraient pu se réfugier dans leur propre demeure.
Ok, mais là, de parler à quelques reprises de notre suspect ou de quelqu'un d'autre qui pourrait être impliqué dans les dossiers, est-ce qu'on connaît son identité?
Eh bien, si on fait des recherches approfondies comme moi je l'ai fait, oui, on le sait. C'est un individu qui est toujours en vie aujourd'hui, donc je suis un peu plus frileuse de le nommer. Mais croyez-moi quand je dis qu'il a le profil parfait pour devenir notre suspect au même titre que Duchesneau. On va l'appeler Mike, tiens. Mike, il a un lourd passé judiciaire. Dans le sens de son premier meurtre, il l'a commis alors qu'il était encore mineur. Oui. Si vous voulez aller voir le dossier complet sur les événements de 1984 et tout ce qui les entoure, vous pouvez aller consulter le site Historiquement Logique. Ils ont fait une série d'articles qui s'appelle « Les faucheurs d'enfants » et dans cette série, on donne le vrai nom de Mike et sa feuille de route, et vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand il était mineur, en novembre 1975, il avait poignardé à mort un garçon de 11 ans, Marc Beaudoin, à Shawinigan. En 1995, il a été accusé d'agression armée, menace et séquestration à Montréal, donc on sait qu'il était dans la région jusqu'à cette date. En 1996, il avait été reconnu coupable d'attouchement sur une mineure à Shawinigan. En 2010, le même homme, maintenant âgé de 51 ans, est de nouveau accusé d'agression sexuelle sur un enfant de 11 ans, toujours à Shawinigan. En octobre 2015, il a été accusé d'avoir agressé une adolescente de 14 ans, Natacha Raymond, à coups de masse sans aucune raison, alors qu'elle se promenait sur la rue. Mais ça, c'est ce qu'on sait, ce que je vous raconte aujourd'hui, là. Moi, je suis convaincue que ça fait juste effleurer la surface de ce que cet homme est capable de faire.
Est-ce qu'on a des preuves comme quoi le dit Mike et Jean-Baptiste Duchesneau se connaissaient?
J'ai cru lire des allusions au fait qu'ils auraient pu se connaître dans plusieurs articles, mais comme on ne veut pas nommer Mike officiellement, c'est difficile d'en être certaine. Dans un article paru dans l'hebdo du Saint-Maurice en janvier 2014, le réalisateur Stéphane Parent, qui a réalisé le documentaire « Novembre 1984 », qui porte, vous l'aurez deviné, sur tous les dossiers dont on vient de parler, donne le nom de famille de Mike et dit, et je le cite, en changeant son nom pour « Monsieur », Monsieur connaissait plusieurs suspects reliés à ces meurtres, surtout concernant l'affaire de Maurice Vien, 4 ans, dont le corps a été retrouvé dans une maison abandonnée à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Fin de la citation. Connaissait plusieurs suspects. Ça veut dire que Mike Duchesneau et, peut-être, d'autres suspects dans la mire des policiers se connaissaient. Stéphane Parent aussi est persuadé que Mike avait quelque chose à voir dans tout ça, même si on n'a jamais pu le prouver.
Le portrait que tu nous as dressé est vraiment celui de deux suspects parfaits. Mais est-ce qu'il y en a eu d'autres au fil des enquêtes qui sont peut-être aussi apparues?
La vraie réponse, c'est sûrement, mais je ne sais pas vraiment. Duchesneau et Mike sont vraiment les seuls dont on parle. Surtout Duchesneau, puisqu'après sa mort, on a commencé à le nommer. Mais sinon, on ne donne pas d'autres noms de façon officielle du moins. Je sais que dans le cas de Maurice, la police a suspecté le père et l'oncle du garçon au début, en raison de leur mauvaise fréquentation et de leur tempérament bouillant, entre autres, mais ils ont été rayés de la liste rapidement. En même temps, c'est normal aussi de regarder du côté des proches, parce qu'on sait maintenant que la plupart du temps, quand un crime est commis, c'est fait par quelqu'un que la victime connaissait. On sait aussi que la police a suspecté M. X, celui qui avait décrit la cabane abandonnée dans laquelle on a trouvé Maurice, le voyant, mais lui aussi avait été éliminé de la liste. Mais sinon, c'est pas mal tout ce que j'ai pu trouver. Ouf, beaucoup d'informations, je sais, mais j'ai envie de vous résumer tout ça en vous faisant un peu part de mes hypothèses. Qu'est-ce que t'en penses?
Je suis intéressée.
OK. Moi, je pense que Duchesneau et Mike se connaissaient. Et qu'ils ont orchestré tout ça ensemble d'une façon ou d'une autre. Si on part des cas de Sébastien Wilton, je pense que c'est Mike qui est le coupable dans leur cas. On sait par la mère de Sébastien que son fils était au courant que plus tôt dans la journée, Maurice était disparu. Ça avait déjà été annoncé aux nouvelles. Sébastien avait même dit à sa mère en parlant de Maurice qu'il pensait qu'il était mort, ce qui laisse entendre que même à 8 ans, il était conscient des dangers. Donc pour que le tueur ait réussi à attraper Sébastien Wilton le jour même d'une autre disparition, je suis sûre que c'est parce qu'il était un visage connu des victimes et qu'il a réussi à les attirer. Je pense que c'est possible que, comme Kevin Duchesneau l'a mentionné, Sébastien Wilton se soit trouvé chez lui. Pourquoi? Là est le mystère. Duchesneau et ou son complice ont peut-être trouvé une ruse efficace pour attirer deux jeunes garçons qu'ils connaissaient un peu. La raison pour laquelle je pense que c'est Mike, c'est à cause de la façon dont Wilton a été tué. Étranglé, poignardé à plusieurs reprises, puis la gorge tranchée. On se rappelle que dans le cas du premier meurtre de Mike, il avait utilisé la même méthode. Il avait poignardé à plusieurs reprises sa victime. De plus, à peu près toutes les victimes de Mike ont entre 8 et 12 ans, exactement les âges de Sébastien Wilton. Et on va parler plus bas de plusieurs victimes potentielles qu'on pourrait relier à Mike. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs enfants de 11-12 ans qui ont été étranglés au Québec dans ces années-là. Stéphane Parent, le réalisateur de novembre 1984 dont je parlais plus tôt, avait dit que chaque fois que Mike changeait de place, des enfants disparaissaient de cet endroit et se faisaient tuer. Il semble même qu'il était dans le coin de Trois-Rivières en juillet 2007 quand, vous l'aurez deviné, Cédrica Provencher a été portée disparue. Dans le cas de Maurice Vien, je pense que c'est Duchesneau. Lui, ses victimes étaient beaucoup plus jeunes, entre 4 et 7 ans. Et la police a toujours répété aux parents de Maurice et Denis que Duchesneau était leur homme, qu'ils avaient assez d'informations pour l'affirmer en ne pensant pas se tromper. En plus, leurs meurtres sont presque identiques. Même le fils de Duchesneau semble abonder en ce sens. Il a dit qu'il pensait que son père était relié au meurtre de Maurice et Denis. Si c'est lui qui a tué Maurice et Denis, lui, il n'étranglait pas ses victimes, ni ne les poignardait. Il les battait à mort au crâne, sur le corps. On sait que c'est ce qu'il avait fait avec Sylvie Tanguay en 1973 aussi. Ça me semble deux méthodes très différentes. Malheureusement, Duchesneau ne pourra jamais être accusé puisqu'il s'est enlevé la vie en 1993. Il aura réellement été un lâche jusqu'à son dernier souffle. Mais honnêtement, peut-être que je suis complètement dans le champ aussi, et qu'ils n'ont rien à voir avec tout ça, là. Juste pour vous mélanger un peu plus, j'ai compilé les cas de disparition et de meurtre d'enfants qui pourraient, d'une façon ou d'une autre, être reliés à Mike et ou Duchesneau, et ou un suspect inconnu de tous, et j'ai fait une genre de ligne du temps. S'y trouvent aussi les dossiers pour lesquels ils ont été reconnus coupables pour bien voir le portrait complet. C'est sérieusement la chose la plus morbide que j'ai jamais faite. Mais moi, je suis visuelle. Je dois voir pour comprendre. Alors, je me suis dit que certains d'entre vous devaient être comme moi. Pour ceux qui veulent la voir, vous pouvez aller sur notre page Instagram. On va la mettre là. Évidemment, pour trouver tous les dossiers, je me suis servi entre autres de la recherche de plein d'autres gens qui ont fait à peu près le même exercice. C'est juste que moi, j'ai vraiment tout compilé à un seul endroit. Vous allez sûrement trouver plein de noms que vous reconnaissez. Et honnêtement, j'aurais tellement voulu avoir le temps de parler de chacun d'entre eux parce qu'ils sont tous importants. C'est juste que je trouvais que c'était déjà beaucoup d'informations et j'aurais pas pu parler de tout ce dont j'aurais voulu en si peu de temps. Pour ceux qui sont pas visuels, en gros, voici à quoi ça ressemble. Eric, veux-tu lire ce que je viens de t'envoyer?
OK. 1973, Sylvie Tanguay, 6 ans et assassinée par Jean-Baptiste Duchesneau à coups de marteau à Québec. 1975, Marc Baudouin, 11 ans et poignardé à mort par Mike à Shawinigan. 1981, Tammy Leakey, 12 ans, est retrouvée morte à Dorval. Elle a été battue et étranglée. 1982, Stéphane Gauthier, 12 ans, est retrouvé mort à Montréal. Il a été étranglé. 1984, Maurice Vien, 4 ans, est retrouvé battu à mort sur la rive sud de Montréal. 1984, Wilton Lubin, 12 ans, est retrouvé mort, étranglé, poignardé et la gorge tranchée dans les eaux du fleuve. 1984, Sébastien Métivier, 8 ans, disparu en même temps que son ami Wilton Lubin, mais jamais retrouvé. Encore en 1984, Michel Etier, 12 ans, disparaît à Repentigny. Il sera retrouvé 3 mois plus tard dans les eaux du fleuve et on apprendra qu'il a été étranglé. 1985, Denis Roux-Bergevin, 5 ans, est retrouvé battu à mort sur la rive sud de Montréal. 1987, Duchesneau est reconnu coupable d'inceste et d'agression sur de jeunes enfants. Ensuite, en 1990, Pascal Poulain, 11 ans, a été assassiné à coups de marteau à Montréal. 1992, Marie-Ève Larivière, 11 ans, est retrouvée morte, étranglée à Laval. 2 novembre 1993, Duchesneau se suicide dans sa cellule de prison. 1994, Marie-Chantal Desjardins, 10 ans, est retrouvée morte, étranglée à Rosemère. 1995, Mike est accusé d'agression armée, menace et séquestration à Montréal. 1996, Mike est accusé encore d'attouchement sur une mineure à Shawinigan, en Mauricie. 2007, Cédrica Provencher, 9 ans, disparaît le 31 juillet à Trois-Rivières. Ses ossements seront retrouvés en 2015 dans la même région, en Mauricie. 2010, Mike est reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement un garçon de 11 ans à Shawinigan. 2015, Mike est reconnu coupable d'avoir frappé à coups de marteau une jeune fille de 14 ans. Ouf, c'est une très longue liste.
Ouais, ouf. Et tu vois ce que je veux dire quand je parlais de jeunes de 10-12 ans étranglés, là? Je veux dire, essaye de me dire deux secondes que tu crois pas que ces dossiers sont reliés, là. Et si on regarde bien la ligne du temps, on voit un trou entre 1996 et 2007. En 1996, Mike avait été accusé d'attouchement sexuel. Alors est-ce qu'il y a une pause parce qu'il est incarcéré? Aussi, les seules victimes différentes dans l'eau, ce sont Sylvie, qui a été tuée par Duchesneau, et Maurice et Denis, pour lesquels on soupçonne Duchesneau. Mais entre Sylvie et Maurice, alors que Duchesneau est incarcéré, tous les autres sont encore des jeunes de 11-12 ans qui ont été étranglés. Clairement, il y a un pattern. Et en 1987, Duchesneau était en prison jusqu'à sa mort en 93. Alors tout ce qui vient après 87, ça peut pas être lui. En tout cas, ce sont mes impressions et mes conclusions, mais tu sais, je suis juste une fille qui s'est partie un balado, hein. Je suis pas une police. Il y a aussi le cas de Sébastien que je trouve un peu différent, car c'est le seul qu'on n'a jamais retrouvé. Les autres victimes ont en général été laissées pour compte à l'endroit où le crime avait été commis et retrouvées quelques jours plus tard, ou lancées dans le fleuve pour être retrouvées un peu plus tard. Alors, est-ce que Sébastien a subi le même sort que Wilton, mais pour une raison inconnue, son corps ne s'est jamais rendu jusqu'à la berge comme les autres? Est-il toujours quelque part et on le trouvera un jour? Le plus incroyable là-dedans, je pense que c'est le fait que le ou les meurtriers courent toujours. Je comprends pas comment c'est possible. Je veux dire, c'est inimaginable que personne n'ait retesté les preuves, l'ADN d'aucun de ces dossiers au fil des ans. On s'entend que la technologie s'est améliorée de façon exponentielle depuis 1984, non? Et je veux bien croire qu'on avait affaire à des tueurs en série, des gens qui avaient de l'expérience dans ce genre de crime, mais reste que c'est impossible de commettre autant de crimes parfaits? Et comment ça se fait qu'un gars comme Mike a été en liberté aussi souvent et aussi longtemps? En 2015, après son attaque contre Natacha Raymond à Trois-Rivières, la Couronne a demandé à ce qu'il soit déclaré délinquant dangereux. Honnêtement, je me demande juste comment ça se fait que cette demande n'a pas été faite plus tôt, lors d'une des autres nombreuses arrestations de Mike. Et sans surprise, la demande a été acceptée. Donc désormais, il est déclaré délinquant dangereux. Une chance, parce que si lui n'en est pas un, personne n'en est un. Personnellement, je suis plus que convaincue qu'il y a quelque part une façon de relier un ou plusieurs de ces meurtres sordides à quelqu'un. Et si c'est pas de l'ADN qu'il fera, j'espère que c'est quelqu'un qu'il fera. Parce qu'on peut pas laisser autant de familles endeuillées dans la misère encore plus longtemps. Je sais que c'était le plus long et le plus intense des épisodes qu'on a fait jusqu'à présent, mais j'avais trop envie qu'on parle de ces jeunes victimes, parties trop tôt dans des circonstances que personne ne devrait avoir à vivre. On dirait qu'après avoir parlé d'histoires tragiques comme celles qu'on a abordées dernièrement, j'aurais envie de vous dire « Aimez-vous. Allez serrer vos enfants, vos neveux, vos nièces, vos cousins, vos parents, vos amis. Dites-leur à quel point vous les aimez et réalisez à quel point vous êtes chanceux de les avoir. » Parce que les proches de Sébastien, Wilton, Maurice, Denis, et de toutes les autres victimes que j'ai nommées et qui sont parties trop tôt, eh bien, ils donneraient vraiment cher pour pouvoir les serrer dans leurs bras. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez des informations, contactez le service de police de la Ville de Montréal, Infocrime, la Sûreté du Québec ou encore Enfants Retour. Parlez, il n'y a pas d'informations inutiles. Si vous pensez que c'est banal, ça se peut que ce soit la clé pour résoudre un dossier. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Vous pouvez aussi aller nous suivre sur Instagram au Histoire Sordide au pluriel, donc Histoire et Sordide avec un S. La recherche, l'écriture, la narration et le montage sont faits par moi, Marie-Pierre, et la musique par Étienne Thibault.